Aujourd'hui, nous parlons de Tolkien, un auteur qui a su articuler de manière spectaculaire et totalement inédite le savoir le plus académique et l'imagination la plus débridée.
Être et savoir, Louise Touret.
Three rings for the elven kings under the sky, seven for the dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie.
1967, John Ronald Reuel Tolkien enregistre le poème de l'Anneau pour la BBC. Alors il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, et nous citons là une spécialiste de l'auteur Isabelle Pantin, Tolkien suscite des jugements contrastés. Il est aimé sans réserve par d'innombrables lecteurs. De très savants médiévistes l'admirent, mais d'estimables critiques, d'ailleurs démentis par quelques confrères, lui témoignent toutes les nuances du dédain, depuis l'indifférence jusqu'à l'injure. Alors aujourd'hui, en écoutant les connaisseurs de l'œuvre de Tolkien, amis auditeurs, que vous l'aimiez ou non, vous comprendrez que cette littérature de genre, en emmenant le jeune et moins jeune lecteur dans un univers extrêmement codifié, ne se contente pas de faire rêver et même frissonner, elle nous incite à réfléchir sur l'ordre du monde réel et la place que nous y occupons. Et puis si nous parlons de Tolkien, 1892-1973, aujourd'hui, c'est parce que la Bibliothèque nationale de France lui consacre une grande exposition à partir du 22 octobre, l'occasion de découvrir que l'auteur britannique s'est d'abord adressé à la jeunesse avant de devenir le maître d'un genre, l'heroic fantasy, qui n'a cessé de se référer à lui depuis. Son influence se retrouve dans des sagas très populaires que les enfants d'aujourd'hui dévorent, comme les Royaumes de Feu, des jeux ou des séries emplies de magie et de dragons, je pense à Game of Thrones et évidemment. Mais sait-on que l'écrivain, qui se considérait avant tout comme un enseignant, consacrait la plus grande partie de son temps et de son énergie à transmettre et partager son savoir. En 2019, Tolkien peut être aussi lu en classe dans l'étude du genre merveilleux au programme du collège. Un merveilleux, toujours riche d'ambiguïté. Et j'ai appris en préparant cette émission que Tolkien était un extraordinaire dessinateur. Dans la leçon de choses, nous entendrons un illustrateur, Benjamin Shaw, qui a aussi, lui, puisé son inspiration dans la nature. J'ai repris mon souffle pour remercier l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Audrey Guélil qui est à la prise de son. Évidemment, Avril Ventura, notre attaché de production, et Philippe Baudouin, notre réalisateur qui fabrique cette émission avec beaucoup de soin et beaucoup de joie. J'indique que toutes les archives assez exceptionnelles que nous entendons aujourd'hui ont été sélectionnées par Philippe Baudouin, évidemment.
Troll sat alone on his seat of stone and munched and mumbled a bare old bone. For many a year he'd gnawed it near, for meat was hard to come by, some by, come by. In a cave in the hills he dwelt alone, and meat was hard to come by. Up came John with his big boots.
Alors c'est toujours la voix de Tolkien qui chante, hein, un poème, Le Troll de Pierre, c'est en 1952, il s'enregistrait en fait sur bande magnétique. Bonjour Anne Besson.
Bonjour.
Vous êtes professeur en littérature générale et comparée à l'université d'Artois, c'est à Arras. Vous êtes spécialiste des ensembles romanesques, je crois qu'avec Tolkien on a un bel ensemble romanesque. C'est un peu un collègue, c'est un professeur Tolkien.
Oui, un professeur pas tout à fait de la même spécialité que nous, un médiéviste, un philologue, un spécialiste des langues avant tout, mais mon collègue Vincent Ferré est un petit peu plus du côté de la traduction et encore plus proche de lui.
Bonjour Vincent Ferré.
Bonjour.
Alors vous enseignez la littérature générale et comparée à l'université Paris-Est Créteil, l'UPEC. Vous êtes co-commissaire de l'exposition donc qui s'ouvre mardi à la BNF avec Frédéric Manfrin et vous avez co-dirigé avec le même Frédéric Manfrin le catalogue de l'exposition Tolkien, Voyage en Terre du Milieu, et vous avez dirigé un dictionnaire en 2 volumes sur Tolkien et publié chez Bragelonne, avec plein d'entrées d'ailleurs qui permettent de connaître l'auteur dans toutes ses dimensions, y compris celle de l'enseignement. Mais on va commencer par ces jugements contrastés que suscite Tolkien, parce que quand on prépare une émission sur cet auteur, on se dit c'est pas facile, il a ses fans, et puis d'autres personnes vont dire bon, la fantasy, ça ne m'intéresse pas. Alors comment expliquer que cette œuvre qui paraît s'adresser à un public aujourd'hui relativement restreint a totalement irrigué un certain nombre d'œuvres, que ce soit des œuvres télévisées et particulièrement aussi dans le domaine de la jeunesse?
Vous avez raison, il y a plusieurs paradoxes dans la réception de l'œuvre de Tolkien. La plupart des textes qu'il a écrits étaient destinés soit à un usage familial, soit à un usage de lecture à voix haute devant ses amis, soit pour lui-même. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais écrit en suivant les lois du marché. L'autre paradoxe, c'est la manière dont il a été reçu dans les pays de langue anglaise et dans le reste du monde. Il a d'abord été perçu comme un auteur de littérature jeunesse en raison ou à cause de la publication du Hobbit en 1937, alors que cela faisait 20 ans qu'il inventait des histoires pour les adultes, des histoires héroïques se déroulant dans un monde imaginaire. Et particulièrement en France, quand vous dites qu'il y a ceux qui aiment Tolkien, ceux qui ne l'aiment pas, alors ceux qui ne l'aiment pas sont souvent des gens qui n'ont pas encore lu, ou en tout cas qui n'ont pas pris conscience de la très grande diversité de son œuvre. On parle toujours du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, on les range dans le genre de la fantaisie dont Anne Besson est spécialiste et on a raison de le faire. Mais en fait, Tolkien est un écrivain qui s'est illustré dans de très nombreux genres, dont certains poèmes sont importants. Il a également publié des essais et des conférences sur la littérature fondamentale qui ont vraiment modifié notre manière de percevoir les contes de fées au XXe siècle. Donc c'est un auteur qui gagne à être découvert au-delà des étiquettes qu'on lui colle généralement.
Anne Besson.
La mauvaise réputation, elle concerne en fait surtout la postérité de Tolkien, celle dont je suis spécialiste et que j'ai tendance à défendre moi aussi. Mais Tolkien est l'auteur le plus légitime de ce genre dont il est largement le fondateur ou le refondateur au milieu du XXe siècle, la fantasy qui est née à la fin du XIXe et qui aujourd'hui effectivement est encore vue à travers un prisme largement déformant de dragons, d'elfes, de barbares musclés, alors qu'elle aussi, comme l'œuvre de Tolkien, qui la fonde, possède une grande richesse.
Mais ce genre dont vous parlez, il est extraordinairement vivant. Si on fréquente un peu les bibliothèques et leurs rayons jeunesse, on voit des sagas qui font 8, 10, 12 tomes avec des histoires de dragons, des mondes imaginaires relativement étendus. Là aussi, on a des cartes, comme chez Tolkien. Il a vraiment inspiré des auteurs qui aujourd'hui publient des tonnes de livres.
Tout à fait. La fantasy est un des genres majeurs de la littérature de jeunesse aujourd'hui. Un des genres qui tire le marché tout entier et un des genres favoris des jeunes lecteurs. Toutes les enquêtes sur la lecture du jeune public l'attestent. Les genres de l'imaginaire en général, la science-fiction et la fantasy, donnent envie de lire, hein, y compris à des jeunes gens qui ne sont pas particulièrement en réussite dans le système scolaire. Et c'est pour ça aussi qu'on a intérêt à récupérer cette avidité, cette passion que suscitent ces ouvrages en série, effectivement, comme vous le dites, pour le réinvestir dans l'enseignement.
Mais Tolkien en est bien l'inspirateur, d'une certaine manière, ou même d'une manière assez
d'une
importante.
D'une manière vraiment, vraiment très directe. Le genre de la fantasy tout entier sort du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, en particulier à partir de 1965, qui est le moment de sa réédition en poche aux États-Unis, où là ça devient un phénomène culturel qui est un roman culte pour les étudiants des campus de la contre-culture. Et ça ne va plus cesser. L'ouvrage est constamment réédité, énormément lu et imité. D'abord, dans un premier temps, mal imité. C'est-à-dire qu'on a vraiment des espèces de pâles photocopies extrêmement redondantes. Dans tous les années, à partir du milieu des années 70, c'est l'épée de Shannara de Terry Brooks qui est le grand exemple souvent donné de cette forte tendance. Et puis ces séries épiques se suivent tout au long des années 80, des années 90, qui peuvent donner un sentiment de redondance, voire d'épuisement, alors que par ailleurs et en parallèle, un renouvellement permanent se produit.
Vincent Ferré.
Oui, en fait, c'est là qu'on voit que Tolkien est un tournant dans l'histoire du genre, même s'il n'a pas inventé la fantasy, comme l'a dit Anne Besson. C'est à partir de lui qu'une sorte de recette est mise au point. La fantasy, on peut la définir de manière assez simple comme une fiction se déroulant dans un univers imaginaire, souvent ancré dans un passé, plus ou moins mythifié, et dans lequel l'élément merveilleux est important. Voilà, donc ça c'est la définition minimale sur laquelle on s'accorde à peu près pour situer la fantasy par opposition avec la science-fiction ou avec le fantastique également. Et on voit bien qu'en français même on a du mal à traduire le terme de fantasy qu'on a tendance à garder pour désigner ce genre qui va de Harry Potter à Game of Thrones en passant peut-être par Star Wars, par tous les jeux vidéo, par le sorceleur, par voilà, ça englobe. Donc la fantasy, ça n'est pas que l'héroïque fantasy à la Conan le Barbare, c'est aussi toutes ces nuances.
Qu'on trouve dans la pop culture d'aujourd'hui, donc qui est consommée par des enfants et beaucoup d'adultes aussi. Mais Tolkien s'est beaucoup adressé à des enfants, en fait ses enfants qui lui ont dicté, c'est lui qui le dit, sa manière de s'adresser au lecteur. Je propose qu'on écoute encore une archive.
I read my children, I read the two elder ones, who took kindly, and on the whole, favorable, interested.
Je l'ai lu à mes enfants, aux deux aînés. Ils l'ont apprécié dans l'ensemble. Ils ont été très intéressés. J'ai pensé qu'il était approprié de les inclure dans une histoire pour enfants. Mais ils haïssaient les apartés comme « Alors maintenant je vous ai assez dit que… » etc. etc. Mes enfants détestaient tout ce qui sonnait comme si vous parliez à un public réel.
C'est ça, dit Vincent Ferré en aparté. Une archive de la BBC de 1968. Donc c'est Tolkien, et en 2019, c'est une traduction de Philippe Baudouin, dont vous avez donc entendu la voix, c'est le réalisateur de cette émission. La question que je me pose en étudiant les analyses de son œuvre, c'est son rapport évidemment à la jeunesse, à l'imaginaire, ça me fait penser à Disney. Alors, on sait que l'auteur s'était positionné par rapport à Walt Disney, qu'en a-t-il dit, Vincent Ferré?
Alors en fait, l'archive qu'on vient d'entendre est très révélatrice. Tolkien a d'abord inventé des histoires pour ses enfants sans réfléchir complètement à ce qu'était pour lui la littérature de jeunesse. Puis le succès du Hobbit l'a amené à s'interroger vraiment sur la forme qu'il avait envie de donner au récit pour la jeunesse. Et deux ans plus tard, en 1939, il a prononcé une conférence fondamentale sur les contes de fées qui a par exemple profondément influencé Bettelheim plusieurs décennies après.
Et Tolkien, psychanalyste, donc psychanalyste auteur de la psychanalyse des contes de fées.
Tout à fait. Qu'on cite souvent sans savoir que la plupart des théories formulées par Bettelheim viennent directement de Tolkien. Et Tolkien est revenu un petit peu sur ce qu'il avait fait précédemment dans des histoires comme Le Hobbit ou Monsieur Merveille ou Rover and Dom, en estimant qu'il...
Donc, Monsieur Merveille, c'est un ouvrage qui est là destiné vraiment aux plus petits.
Hein. Ouais, aux plus petits.
C'est un album.
C'est un album illustré, tout à fait, pour ses enfants à l'origine. Et Tolkien a un petit peu regretté après coup de n'avoir pas su se dégager de ce qu'il a appelé des illusions contemporaines. C'est-à-dire que progressivement, il en est venu à formuler l'idée que le merveilleux et ce qu'il appelait le conte de fées, devait être principalement destiné aux adultes et pas aux enfants. Et que quand on écrivait pour les enfants, on devait leur parler comme à des grands. Pas leur parler avec des trucs et des astuces qui avaient cours à l'époque dans la littérature de jeunesse contemporaine, mais leur parler, l'image qu'il prend, elle est très évocatrice. Il explique qu'un récit pour les enfants, c'est comme un vêtement. C'est-à-dire qu'il faut choisir un vêtement un peu plus grand pour l'enfant pour que l'enfant grandisse avec. Et il explique que les récits pour la jeunesse doivent par exemple contenir des mots un petit peu difficiles ou un peu rares pour que l'enfant enrichisse son vocabulaire. Donc on prend l'enfant au sérieux, en l'aidant à grandir, et on prend les récits merveilleux et la fantaisie au sérieux, parce que c'est avant tout, d'après lui, le conte de fées, comme il essaie de le redéfinir, c'est destiné aux adultes.
C'est ça qui fait de Tolkien donc un anti-Disney, parce que je tenais à cette question sur Disney.
Alors ça c'est fondamental, c'est que Tolkien s'inscrit frontalement contre Disney. Il a expliqué par exemple qu'il hait sincèrement tout ce que les studios Disney ont fait, ça, c'est, on est en mai 37 alors que le Hobbit va apparaître, et 10 ans plus tard il explique que telle et telle illustration du Hobbit ne lui convient pas, une édition allemande ne lui convient pas parce qu'elles sont trop proches de Disney à son goût. Autrement dit, ce qu'il désigne, c'est à ses yeux l'affaiblissement, l'affadissement d'une tradition, d'un folklore qui fait que les nains deviennent les créatures que l'on voit dans Blanche-Neige. Alors que pour lui, les nains proviennent d'un héritage européen qui a traversé les siècles et qu'il faut conserver dans sa puissance, dans son côté un peu brut. Les nains du Seigneur des Anneaux ne ressemblent pas aux sept nains de Blanche-Neige. Et Tolkien, pas du tout. Et Tolkien retravaille sur le folklore européen, dont il est un excellent connaisseur à travers son travail sur les langues et littératures médiévales, dans l'idée de transmettre au public public contemporain au public moderne, l'image la plus fidèle qui soit et pas une image affaiblie.
On va revenir aux langues, mais dans ce qui habite l'univers de Tolkien, il y a toute l'ambiguïté de ces personnages et voilà qui me paraît à la fois plus contemporain et se dégager d'une certaine littérature et propositions pour la jeunesse comme celle que fait Disney, ce combat entre le bien et le mal qui est un combat intérieur avant tout, Anne Besson.
Tolkien effectivement refuse tout ce qui est miniaturisation et mignardise. C'est le sens de son rejet d'une certaine littérature pour la jeunesse. Il veut apporter de la grandeur et de la noblesse à ce qu'il appelle la faérie. Et c'est aussi pour ça donc qu'il la destine à tout public, à des enfants qui doivent être ne pas être méprisés en tant qu'enfants et à des adultes qui ne doivent pas être méprisés pour leur amour du merveilleux. Parce qu'en effet, le merveilleux est pour lui une manière de transmettre des messages extrêmement profonds qui pour lui sont de nature catholique, de l'ordre de la croyance, mais qu'il allégorise, qu'il donne sous une forme symbolique, sous une forme mythifiée, à travers son travail sur un monde imaginaire. Et ce qui s'y joue effectivement, c'est une réflexion sur la mortalité humaine, sur la tentation du pouvoir, donc sur des thématiques extrêmement larges et concernantes.
Et sur la place qu'on a dans sa société, le rôle qu'on peut jouer les uns pour les autres, l'amitié, avec peut-être et sûrement pour aujourd'hui une difficulté, il n'y a pas beaucoup de filles et de personnages féminins pour incarner cet héroïsme.
Alors dans Bilbo tout particulièrement, où l'absence des femmes est quand même absolument aveuglante pour un regard contemporain, beaucoup moins dans Le Seigneur des Anneaux où les personnages féminins certes peu nombreux sont tout de même très intéressants et très importants pour le déroulement du propos. Alors la réponse facile, c'est qu'il faut toujours remettre en contexte. C'est-à-dire que Tolkien est un auteur de son temps. Il écrit dans l'Oxford des années 30, des années 50, où une séparation assez nette entre le monde des hommes, qui est celui des clubs, celui des pubs, et le monde des femmes, qui est extrêmement respecté pour Tolkien, qui est extrêmement important. Voilà, il met sa femme sur un piédestal absolu, mais c'est un monde à part, à côté de celui des hommes et qui se mélange assez peu.
On va venir au monde universitaire et pour y venir, je voudrais parler de Tolkien universitaire, quelqu'un qui étudie l'histoire et les langues. On peut peut-être écouter aussi ce que ça donne. C'est Tolkien qui parle encore et cette fois-ci en elfique. Le poème s'appelle À Elbereth Giltoniel. J'ai pas peur de mal prononcer parce que c'est une langue totalement inventée. Le Sindarin ou le Sindarin, c'est la langue des elfes gris. Je ne me trompe pas, Anne Besson?
C'est bon, c'est ça.
C'est ça. Alors, c'était un fin connaisseur des langues anciennes et c'est ces connaissances-là qu'il a mobilisées pour écrire, c'est-à-dire imaginer un univers et également des langages et puis des noms.
Donc, en fait, Tolkien a été tout de suite passionné par les langues réelles qui l'entouraient. Il a essayé d'en apprendre le plus possible en autodidacte ou à Oxford. Il a fini par en créer lui-même. Il prenait souvent l'image de la musique en disant que certains composent de la musique en fonction de leur goût. On estime qu'il a conçu ou envisagé une cinquantaine de langues, dont une bonne dizaine possède un lexique, une grammaire et une évolution historique. Les deux plus célèbres sont les langues des elfes, le Sindarin dont vous avez parlé, et le Quenya, qu'on ne peut pas parler réellement, mais qu'on peut étudier dans leur évolution historique. Donc l'idée chez lui, c'est de créer un univers dans lequel l'histoire, la géographie et les langues se tiennent. De même que le français moderne a connu des états successifs depuis le latin pour parvenir jusqu'à nous. Lui, ça le fascinait parce qu'aussi l'évolution des langues donnait un aperçu du passage du temps. Il y a toute une rêverie sur le temps et sur la puissance des noms chez lui. Et il est évident que certains passages du Seigneur des Anneaux sont nés d'un rêve sur certains noms propres, qui ont généré du texte. Et là, en cela, il est proche d'autres grands romanciers dont on ne le rapproche pas toujours, comme Proust par exemple, mais c'est le même processus. On rêve sur un nom et quelque chose surgit. Et c'est absolument fascinant de le voir commenter dans sa correspondance la naissance du Seigneur des Anneaux au fil de promenades mentales dans cet univers, comme s'il promenait une caméra.
Ce qui est fascinant, c'est que le nom même de Tolkien semble venir presque d'un monde, un autre monde imaginaire. Mais sur ce savoir et cette érudition, donc il a passé sa vie à transmettre à l'université, la question que je me suis posée, c'est bon, d'abord qu'on connaît pas très bien cet aspect de la vie de Tolkien, et qu'ensuite j'ai l'impression que ses lecteurs, ses fans, emploient beaucoup d'énergie à connaître cet univers fictif, à en avoir une connaissance encyclopédique, et non comme Tolkien l'avait fait, avoir une connaissance de l'histoire et des mondes passés, mais réels. Anne Besson.
Alors un petit peu des deux, parce que donc, alors effectivement, Tolkien était avant tout un professeur et la vie de la vie professionnelle lui prenait énormément de temps, hein, ça ressort encore de sa correspondance, le gros de son énergie et de son temps, il le passe, comme nous, hein, à corriger des copies et à faire cours. Et ses fans, donc, à leur tour, effectivement, se plongent dans cet univers dont ils sont capables de rappeler les moindres détails et sur lesquels ces détails en question, quand ils n'en ont pas suffisamment, ils vont essayer de réfléchir comment on peut établir une cohérence qui va permettre de les insérer encore mieux. Et donc, il rajoute de l'imaginaire dans un processus que je trouve tout à fait fascinant. Ils participent à la construction, ils co-construisent ces univers fictionnels, c'est vrai pour les autres mondes de fantasy. Mais ils, ce faisant, ça les incite très très souvent, au contraire, à se tourner vers des connaissances réelles, entre guillemets, c'est-à-dire à mener des études en histoire, en langue, pour pouvoir nourrir leur connaissance de ce monde. Pour prendre un autre exemple, Game of Thrones et l'histoire, c'est un pensif absolu. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Tous les gens qui ont aimé Game of Thrones ont envie de savoir. Bon, mais alors d'où ça vient cet exemple-là? Quelle est sa source historique? Ça se fait beaucoup. Et pour Tolkien, alors ça va être les mythes qui sont derrière la construction du monde de Tolkien et la mythologie nordique et la mythologie celtique. Il y a, on peut trouver énormément à apprendre à partir de cette passion-là, vraiment.
Home is behind the world ahead, and there are many paths to tread. Through shadow, through the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall.
C'est la chanson de Pipin, c'est un hobbit, c'est un ami de Frodon, et cette chanson on l'entend dans le troisième volet des films de Peter Jackson, qui a rencontré un succès absolument phénoménal. Alors ça date un peu, hein, c'est début du 21e siècle maintenant. Je voulais parler de l'ancrage culturel de Tolkien, et on l'entend bien dans cette musique. On est dans un univers, je ne sais pas exactement comment le qualifier, celtique, gaélique, avec des références qui me semblent extrêmement liée aux origines, hein, de Tolkien. Pourquoi parle-t-elle aussi à nous, latin, et dans plein d'endroits du monde? Vincent Ferré.
Alors vous avez raison, l'œuvre de Tolkien est très ancrée dans une culture anglaise, hein, c'est comme ça qu'il désigne son ancrage et son enracinement, il emploie le terme, et en même temps avec un souci de vulgarisation et de transmission. Alors, ce qu'on a fait le film est un petit peu différent, mais si on se concentre sur Tolkien, on sait que, par exemple, tous les noms des nains du Hobbit proviennent de traditions nordiques. C'était peut-être un moyen mnémotechnique, puisqu'il a raconté le Hobbit le soir à ses enfants pour les endormir, et que c'est facile de retenir le nom de 12 nains quand ils figurent dans des poèmes qu'on connaît par cœur. Mais en tout cas, dans toute sa production littéraire, et je pense aussi à sa réécriture au cours des années 20 de légendes nordiques pour les transmettre au grand public, à un moment où cet héritage nordique commençait à être récupéré par l'Allemagne nazie, à des fins idéologiques que Tolkien condamnait explicitement. Il a, aussi bien dans ses cours, dans les éditions de textes médiévaux, dans ses poèmes, dans son œuvre fictionnelle romanesque, essayé de partager et de transmettre sous la forme la plus lisible qui soit. Il avait un vrai souci des lecteurs. Et on le voit aussi dans ses lettres, il passe énormément de temps à répondre à des questions de lecteurs sur certains détails de son monde imaginaire, avec une générosité qui est absolument stupéfiante. Cet homme qui écrivait son œuvre la nuit parce qu'il manquait de temps, était capable d'écrire 10 pages en réponse à un lecteur qui lui posait des questions sur les cadeaux chez les Hobbits.
L'universalité, elle provient aussi du syncrétisme, hein, c'est-à-dire de la volonté de Tolkien de produire une fusion extrêmement profonde des sources dont il s'est inspiré, qui ne sont plus du tout visibles en tant que telles. C'est-à-dire à aucun moment on ne peut dire voilà la source unique de tel et tel élément. Il y en a toujours plusieurs et tout est fait pour que on ne puisse pas, oui, attribuer une origine unique.
Une mythologie dont on peut s'emparer et qui a particulièrement quand même intéressé le monde nord-américain, les États-Unis, où il a rencontré un succès incroyable. Peter Jackson, c'est un réalisateur qui est néo-zélandais. C'était aussi une manière pour ces nouveaux, entre guillemets, mondes de s'offrir une histoire et donc des mythologies, Anne Besson ?
Alors, c'est la fameuse phrase de Tolkien sur son désir de créer une mythologie pour l'Angleterre, parce que déjà l'Angleterre n'a pas de mythologie à elle. Hein, donc voilà, on part déjà d'une source, hein, si on prend la Grande-Bretagne, voilà, qui est déjà une mosaïque de peuples. Donc peut-être que la mythologie que propose Tolkien a l'intérêt d'en proposer une synthèse accessible et extrêmement désirable.
Pour rebondir sur cette idée du mélange des sources, j'ai appris que la série Zelda, ce sont des jeux vidéo, procède comme ça. C'est-à-dire, eux, c'est complètement un mélange de toutes les sources possibles. Tous les noms viennent de vieilles religions et de mondes passés. Vincent Ferré.
Sauf que la différence entre Tolkien et ses successeurs, c'est que lui connaissait les textes d'origine. Tandis que ce que vous évoquez comme
c'est,
Zelda...
C'est plus superficiel, effectivement.
En fait, c'est plutôt Zelda ou la fantasy qui vient après, se réfère à Tolkien... comme relève vers les origines. Vous voyez ce que je veux dire ? Tolkien était un érudit qui lisait les manuscrits et qui les éditait. Il y a très peu d'exemples d'auteurs de ce genre au XXe siècle, à part Umberto Eco.
Dans l'ancrage culturel de Tolkien, il y a aussi sa jeunesse, ses amitiés, ses fraternités étudiantes qui ont tellement compté pour lui. C'est quelqu'un qui est totalement construit par sa jeunesse et un certain nombre de tragédies aussi qui y sont attachées. Vincent Ferré.
Alors c'est vrai que d'habitude, je n'aime pas parler de la vie des écrivains quand je les étudie. Et là, on ne peut pas faire abstraction du fait que Tolkien a été orphelin de père, puis de mère, très jeune, et qu'il s'est construit dans les relations amicales. Il a recréé des cercles, d'abord au lycée, et il avait, avec 3 amis, fondé un petit groupe qui s'appelle le TCBS. Et c'est là qu'il s'était juré de recréer une mythologie pour l'Angleterre quand ils étaient tout jeunes, puis à Oxford. Et la sociabilité à Oxford, faut bien imaginer que Tolkien était un excellent joueur de rugby, qu'il s'est distingué un jour en volant un bus et en le ramenant sous forme de gage. Enfin, les frasques des étudiants d'Oxford qui montent sur les toits quand ils ont des gages, etc. Il était président de toutes les sociétés possibles et imaginables, de rhétorique, de débat, les sociétés où on proposait des essais. Et tout au long de sa carrière, il a parallèlement maintenu le rituel qui consistait à aller lire chaque semaine à ses amis les pages qu'il écrivait du Seigneur des Anneaux. Ce qu'il faut imaginer, que Tolkien a écrit le Seigneur des Anneaux entre 1937 et le début des années 50, publication en 54. Ça a été un labeur très long parce qu'il avait très peu de temps pour le faire et qu'à l'arrivée le roman a fait 1000 pages et qu'il a beaucoup tâtonné et qu'il a écrit en ayant en tête 2 destinataires principaux, l'un de ses fils, Christopher Tolkien, qui a par la suite édité l'essentiel de son œuvre après la mort de son père à la demande de celui-ci, et C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, qui a écouté très attentivement Tolkien, qui s'est beaucoup inspiré de ce que disait Tolkien parce que Tolkien écrivait, Lewis publiait.
Donc, Narnia, c'est un monde imaginaire dans lequel plongent les enfants quand ils ouvrent la porte d'un placard, je crois, un monde peuplé de créatures là inspiré aussi de la mythologie, si mes souvenirs sont bons, Anne Besson, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est essentiellement de la mythologie antique. On a des satyres, des faunes, mais aussi des sorcières, des loups-garous. C'est alors pour le coup vraiment un très syncrétique.
Sur la place de l'amitié dans l'œuvre de Tolkien, l'amitié, la loyauté, la fidélité, il me semble que c'est un ressort dramatique extrêmement important qui intéresse tous les publics, mais particulièrement peut-être le jeune public.
Oui, dans Bilbo le Hobbit d'abord, hein, avec ce groupe qui avance ensemble avant d'exploser et dont toute la question finale hein, est de savoir comment réconcilier les camps. Hein, voilà, comment sortir de la guerre qui s'annonce, comment dépasser les tentations individuelles et à plus forte raison dans le Seigneur des Anneaux, dont on sait le chemin du duo de Sam et Frodo jusqu'au bout de la quête hein, et Sam qui porte Frodo, et l'inspiration est ici celle de la Première Guerre mondiale et de la fraternité qu'il avait connue dans les tranchées.
Et plus largement, on sait que les différents peuples dans Le Seigneur des Anneaux représentent des facettes de l'humanité, et le message c'est vraiment que sans union, on ne peut pas survivre. Il y a des amitiés improbables qui se créent au cours du récit, qui surmontent les malentendus. L'exemple le plus célèbre, c'est entre un nain et un elfe qui sont antinomiques au début de l'histoire et qui apprennent l'un l'autre à dépasser des préjugés et à devenir vraiment amis. Donc le Seigneur des Anneaux met en œuvre un certain nombre de valeurs qui sont effectivement intéressantes pour les jeunes lecteurs, mais aussi pour les adultes, qui nous amènent à nous interroger sur une série de représentations faussées qu'on peut avoir d'autrui à travers le filtre de l'image du voyage. Et c'est vrai qu'on a souvent fait des lectures un peu existentielles du Seigneur des Anneaux, un voyage qui peut conduire à la mort, qui peut conduire à l'échec, mais qu'on essaie d'entreprendre parce qu'il faut bien faire quelque chose de sa vie.
Peut-être reconnu la musique de Game of Thrones, surtout si vous avez regardé les 10 saisons. C'est pas pour reparler de cette inspiration, les 8 saisons. Merci Anne Besson. C'est pas pour parler de cette inspiration, c'est pour parler du côté tragique de l'œuvre de Tolkien, parce que cette musique est assez triste. Enfin, moi, je la trouve assez triste. Et on a parlé de l'amitié, mais il y a une tragédie, donc. Dans la vie de Tolkien, c'est la guerre de 14, il va perdre des amis et son œuvre est très tragique avec des guerres, des descriptions de batailles terribles. C'est la tragédie de la modernité aussi et du monde contemporain, je ne me trompe pas.
Vous avez tout à fait raison, Tolkien est officier pendant la bataille de la Somme comme officier anglais. Il est exfiltré parce qu'il tombe très gravement malade. La fièvre des tranchées, et alité à l'hôpital, il dicte à sa femme Edith ce qui va devenir le livre des contes perdus. On est en 1916-1917. Que raconte le livre des contes perdus ? En particulier des batailles, des destructions, la mort de civils par milliers. Et donc c'est une manière de donner une forme à un traumatisme. Mais il choisit d'emblée ce qu'on peut appeler le merveilleux, en tout cas le surréel, le surnaturel, pour transmettre cette expérience, plutôt que la poésie qu'il pratiquait jusqu'alors. Et vous avez raison de dire que au cœur de toutes les histoires importantes de Tolkien, il y a un sentiment du tragique, du fait que le monde va disparaître à un moment donné, et qu'on est tous responsables de ce qu'on va faire d'ici la fin du monde. Et il est vrai que le grand œuvre de Tolkien, qu'il n'a pas réussi à publier de son vivant, le Silmarillion, qui a été édité par son fils, raconte une série de catastrophes qui sont liées à des vols, des luttes fratricides, des trahisons, des meurtres. Et c'est une manière de réfléchir à la manière dont on peut essayer de surmonter ces divisions pour construire autre chose ensemble.
Anne Besson, sur cette dimension tragique.
Alors Tolkien, effectivement, c'est comme la fantaisie plus généralement, réagit à la modernité. C'est une forme de refus du progrès tel qu'il peut être conçu sous forme d'industrialisation qui détruit la nature et de militarisation à outrance qui détruit l'humanité. Il y a cette dimension écologiste hein, qui est très très importante dans l'œuvre de Tolkien. C'est vraiment pas un hasard si la fantasy est aujourd'hui le genre qui consonne de manière si marquante avec l'esprit contemporain. C'est que on est effectivement dans une période où on ressent à nouveau ce sentiment que le progrès est essentiellement destructeur et où on peut avoir envie de mettre le frein sur cette aspect destructeur de l'évolution. Et Tolkien l'a vraiment bien montré, l'a senti de manière précoce sur fond des deux premières guerres mondiales.
C'est une nostalgie, je trouve, qui devient la nostalgie d'époque ou de monde qu'on n'a pas connu. Ce qui me semble un sentiment extrêmement contemporain. Alors peut-être que je parle un peu de moi, mais peut-être que Tolkien parle aussi de lui.
Alors, le terme de nostalgie est très important. Il y a l'idée que les choses peuvent disparaître. Il ne faut pas oublier que Tolkien, comme spécialiste de littérature et langue médiévale, était un des grands spécialistes du poème Beowulf, qui est le grand œuvre de la littérature anglaise médiévale, qui a survécu à un incendie en un exemplaire. À un cheveu près, on n'aurait jamais connu cette œuvre-là. Et ça a beaucoup travaillé Tolkien, qui a prononcé des conférences très importantes juste sur Beowulf, juste avant de commencer à écrire Le Seigneur des Anneaux. Mais ça n'est pas une nostalgie réactionnaire. C'est-à-dire que chez lui, il y a le goût et la célébration de la nature, de la campagne qu'il a connue dans son enfance et qui a été détruite par la révolution industrielle anglaise. Ça, c'est très anglais. Il y a beaucoup d'écrivains.
Le comté, là où vivent les hobbits, c'est un peu l'Angleterre rêvée.
Rêvée. Mais en même temps, Tolkien n'est pas dupe. C'est-à-dire que si les hobbits sont petits, c'est que leur petite taille, un mètre de haut, reflète le fait qu'ils sont bas de plafond et qu'ils sont très mesquins. Pardon, mais il est aussi clair que ça. La mesquinerie des hobbits est aussi constitutive de leur personnalité collective que la générosité.
Est-ce que c'est pas un peu des enfants, les hobbits?
Bah, complètement. Le hobbit, Bilbo, au début de l'aventure, sort d'une sorte de matrice et il affronte le monde réel avec l'aide d'une figure bienveillante paternelle. Donc, effectivement, je pense...
Le magicien Gandalf.
Exactement. Et Le Seigneur des Anneaux montre comment l'enfant peut grandir, les hobbits peuvent assumer leur part de responsabilité dans un univers où ils représentent une des modalités de l'homme et où les créatures magiques vont disparaître. Les elfes ne feront plus rien dans Le Seigneur des Anneaux.
C'est ça, en fait, l'univers de Tolkien et les histoires de Tolkien, elles se terminent et le merveilleux, il est derrière nous, il est passé, on peut le convoquer mais uniquement après dans son imagination, mais ça... C'est l'histoire du passage à l'âge adulte.
Vous avez raison. Avec ce sentiment qu'évoque Tolkien d'un souvenir déchirant du passé. C'est une expression qu'il emploie. Le Seigneur des Anneaux contient quelques traces du monde avant la chute, du monde avant la destruction, avant les meurtres. Et les personnages sont bien obligés d'admettre qu'ils vivent dans un monde qui a tourné cette page, et un monde qui vise à les détruire, à les écraser. Et il faut qu'ils fassent bloc pour éviter ce destin collectif tragique.
Mais alors, on a le contexte historique plus large, et puis il y a un contexte d'histoire et même d'histoire de l'éducation, puisque l'adolescence est un âge conçu au XXe siècle. Les teenagers, ce seront aussi les lecteurs de Tolkien, l'âge où donc on basculerait dans l'âge adulte. Et puis aussi, si on prend vraiment en compte, pour le coup, l'histoire des pédagogies et de l'éducation, c'est entre les deux guerres, c'est-à-dire dans un moment très contemporain de l'écriture de Tolkien, que l'éducation nouvelle va prendre son essor, avec des pédagogues dans tous les pays occidentaux, ça va de l'Italie aux États-Unis, en passant évidemment par la France avec Freinet, des pédagogies où on considère l'enfant, on l'a dit tout à l'heure, comme une personne qu'il faut considérer comme intelligent et à qui il faut proposer peut-être des contenus plus riches, à qui on doit s'adresser de manière un peu plus sérieuse. Anne Besson, sur cette histoire en fait de l'enfance qui correspond donc à une évolution du genre fantastique.
Oui, alors il se trouve que en plus Tolkien a parlé de ça, hein, toujours dans son essai du conte de fées, dans la partie des enfants. Il parle pas directement de l'histoire de l'éducation, mais en fait il s'oppose à ce qui est le culte victorien de l'enfance, puisque si l'adolescence naît un peu plus tard, l'enfance même naît dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc Tolkien voit la littérature de jeunesse, l'âge d'or de la littérature pour la jeunesse anglaise sur laquelle il s'est construit et contre laquelle il s'est construit, sous ce prisme, et il parle de l'âge du sentiment de l'enfance, avec des tirets, de manière très ironique, hein, de manière très critique, l'âge du sentiment de l'enfance. Et pour lui, c'est un moment justement où on prend les enfants pour des créatures idéales qu'ils ne sont pas, et c'est une manière de les mépriser, de ne pas prendre en compte leur complexité intérieure. Et c'est ce que lui va faire en refusant d'être un auteur pour la jeunesse comme ceux qui l'ont précédé, qui idéalisent...
Vous parlez de quels auteurs, par exemple
de petits idéaux. Alors, son rapport lui direct est avec Lewis Carroll. Donc c'est un peu compliqué parce que effectivement l'idéalisation de Lewis Carroll est réelle, mais est déjà très complexe et très ambivalente. Mais c'est contre Lewis Carroll. A priori, qu'il se construit, mais aussi énormément d'auteurs qui eux sont tombés dans l'oubli, des auteurs de la littérature de jeunesse de la fin du 19e, qu'on ne connaît plus, qu'on ne lit plus, ces auteurs victoriens de contes moraux par exemple, qui étaient un énorme genre, les contes gothiques, les contes noirs, c'est une source vraiment très importante.
Vincent Ferré, sur l'adolescence comme tournant qui illustre en fait, ce sont des romans sur l'adolescence.
Oui, et là je voudrais reparler peut-être de la figure de Christopher Tolkien qui, né en 1924, est un des premiers lecteurs du Hobbit. Il relit le Hobbit sur épreuve avant sa parution. Il a 13 ans. Et puis, lorsque Tolkien s'embarque dans la rédaction du Seigneur des Anneaux, à l'origine, ça devait être une suite du Hobbit demandée par son éditeur, il s'aperçoit qu'il n'a plus pas du tout envie d'écrire la suite d'un roman pour la jeunesse. Il cherche une forme et il envoie par épisode les différents chapitres à son fils Christopher, qui entre-temps a grandi et pilote dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand Christopher a 19 ans, c'est le moment où une série de décisions très importantes pour le récit se mettent en place. Donc je pense que au-delà d'une réflexion sur l'adolescence, il y a une sorte de lectorat rêvé, d'un lectorat qui grandit en même temps que l'histoire s'écrit et qui va déboucher sur une fin extrêmement désenchantée, qui coïncide avec un moment où Tolkien doit mettre un point final à un univers dans le Seigneur des Anneaux qui n'a cessé d'évoluer dans une direction complètement inattendue. Il se laisse porter par le récit, il se laisse porter par les questions de ses lecteurs, il se laisse porter par les réactions de ses auditeurs les plus proches, dont Christopher.
Anne Besson, évolution inattendue aussi parce que peut-être l'auteur se découvre lui-même tout en écrivant et finalement toute cette ambiguïté, ce rapport au mal, c'est ce qui le travaille lui intérieurement. Vous avez parlé de la religion. Est-ce que c'était quelqu'un de particulièrement travaillé par des dilemmes moraux parce que c'est très 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 présent dans Le Seigneur des Anneaux par exemple?
C'est vrai que ça l'est, mais il me semble que le Seigneur des Anneaux dégage tout de même une image très positive de la nature humaine, ce qui serait sa grande différence avec par exemple Game of Thrones, qui choisit l'autre option, le versant noir, et de montrer toujours comment le mal se crée en chacun. Au contraire, Tolkien va aller toujours chercher l'espoir, toujours chercher le bien. Au cœur du pire, le grand exemple c'est Gollum. Gollum qui est donc une figure même la figure scindée de du dilemme, hein, avec ses deux personnalités qui dialoguent l'une avec l'autre, alors qui finit, on pourrait le penser, par faire le mauvais choix, mais pour le plus grand bien, et qui a auparavant été épargné, dont on a décidé
qu'il aurait un rôle important,
de ne pas le tuer, parce que la pitié joue toujours son rôle, parce qu'il est toujours mieux de faire preuve de pitié, de charité, et que ça va toujours dans le sens de la consolation.
C'est pour ça que la fin du Seigneur des Anneaux est très ambivalente, puisque les personnages qui veulent faire le bien vont jusqu'au bout. Ils sont défaillants, parce qu'ils sont placés dans des situations que Tolkien décrit comme des apories. Mais ils, en allant faire le maximum de ce qui était en leur pouvoir, ils créent les conditions pour que les créatures plus travaillées par l'ambivalence et par le mal résolvent le conflit d'une manière inattendue. Donc c'est pas un happy end du tout, ça n'est pas une vision manichéenne comme on a pu le dire parfois, c'est une manière très nuancée de montrer que à partir du moment où on fait tout ce qui est en notre pouvoir, on a une chance pour aller au bout de notre mission, même si ça nous dépasse complètement, et même si finalement ça n'est pas nous qui mettons un point final à notre entreprise.
Que pensez-vous des adaptations de Peter Jackson, des films, et peut-être, si vous voulez aller jusque-là, des œuvres cinématographiques qui s'inspirent de Tolkien? Alors je pense il y a des films des années 80 comme Willow, Princess Bride, Dark Crystal, mais Dark Crystal c'est aujourd'hui maintenant une série, hein, qu'on peut regarder sur un des portails de séries bien connus. Anne Besson.
Alors, on peut reconnaître au film de Peter Jackson l'énorme intérêt d'avoir remis Tolkien sous le feu des projecteurs médiatiques et de lui avoir ouvert une nouvelle ère de succès public absolument sans commune mesure avec ce qu'il connaissait auparavant. Il était déjà un auteur connu et reconnu, mais il est vraiment entré dans une nouvelle ère. Et les films de Peter Jackson, mais aussi simultanément le succès phénoménal des Harry Potter, les livres et les films, ont permis effectivement plus généralement cette rééclosion de films, de séries, de jeux à destination du jeune public notamment.
Quel est le lien entre Tolkien, le Seigneur des Anneaux, et Harry Potter? C'est la figure du magicien par exemple, Vincent Ferré, Anne Besson?
Oui, en fait, alors non, je souris parce que je fais une distinction très nette entre le premier Harry Potter, qui, on va le rappeler, a été refusé par 24 maisons d'édition britanniques, sans doute parce que tout le monde connaissait très très bien Tolkien là-bas, et la suite de Harry Potter, où j'ai l'impression que Rowling crée et déploie...
J.K. Rowling, hein, ouais, qui est l'autrice
d'Harry Potter. Déploie vraiment quelque chose d'un univers qui lui est propre. Mais pour revenir à la manière dont Peter Jackson a adapté Tolkien, c'est encore une fois au prix d'un très grand malentendu. Et moi, j'aimerais faire la distinction là entre le premier film de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, où on entre vraiment dans un univers vraisemblable, cohérent, à l'image de ce que Tolkien pouvait espérer. Et là, le travail d'Alan Lee et de John Ho, les deux créateurs visuels, est absolument remarquable. Et on voit bien comment, au fil des films, Jackson imprime sa marque de plus en plus, et donc on quitte un peu Tolkien, et on le quitte complètement dans la soi-disant adaptation du Hobbit, qui n'a rien à voir avec une adaptation du Hobbit, puisqu'on passe d'un récit pour enfants bref à trois films gigantesques où Jackson développe en fait son propre univers en oubliant complètement l'histoire de départ.
D'ailleurs, on dit le Hobbit maintenant. Moi, je l'ai lu sous une autre traduction, Bilbo le Hobbit, parce que ses œuvres ont été retraduites en français.
Tout à fait. En 2012, à la demande de Dominique Bourgois, une retraduction du Hobbit a été faite par Daniel Lauzon et elle a précédé la retraduction du Seigneur des Anneaux en 2014-2016. Mais en fait, on a travaillé 10 ans à la préparation de la retraduction du Seigneur des Anneaux. On a travaillé en particulier sur les noms propres, parce qu'il faut savoir que Tolkien avait laissé toute une série d'indications aux traducteurs de son œuvre qui n'avaient pas été suivies par le premier traducteur.
Aux traducteurs de toutes les langues.
Ouais, parce qu'il en parlait beaucoup, donc il avait prévu beaucoup de cas de figure. Et Daniel Lauzon a consacré 1 an par volume, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, à finaliser une traduction qui soit fidèle aux indications de Tolkien, qui fasse très attention au jeu sur les palettes lexicales de la langue anglaise et la différence d'expression entre Gollum et le roi Théoden ou Gandalf ou Frodo, qui parle comme un petit bourgeois anglais des années 50. Et Lauzon a fait très attention.
Donc c'est Frodo ou Frodon ?
Frodo. Évidemment Frodo, comme le demande Tolkien. Et Daniel Lauzon a fait très attention aussi aux poèmes qui sont insérés dans Le Seigneur des Anneaux, qui sont un reflet, on a entendu tout à l'heure le troll, qui sont un reflet de tel ou tel peuple et de telle ou telle manière de concevoir le monde. Le chant du bain des petits hobbits, c'est pas la même chose que le chant de déploration des guerriers tombés au combat dans le Rohan. Donc retraduire Le Seigneur des Anneaux, c'était donner au lecteur une image beaucoup plus proche du texte anglais.
I have always, for some reason, I don't know why,
j'ai toujours été, et je ne sais pas pourquoi, terriblement attiré par les arbres. Il y a des arbres dans toute mon âme. Cela s'explique sans doute par une sorte de désir comme ça, enfoui en moi. J'aurais aimé entrer en relation avec un arbre et découvrir comment il ressent les choses.
Les arbres sont intelligents, nous dit Tolkien. Les observer nous rend intelligents. Alors, c'est toujours dans un entretien de la BBC. Assez fascinant de voir que ce thème est complètement contemporain. L'intelligence des arbres, c'est quelque chose dont on parle depuis sûrement plus longtemps qu'un an, mais il y a 1 an est sorti un film et un livre aussi, d'ailleurs, sur la question qui a rencontré un grand succès. La nature a une présence très particulière dans l'œuvre de Tolkien. Comment est-ce qu'on peut la décrire, Vincent Ferré?
Oui, Tolkien disait qu'il avait une attention très grande aux choses qui poussent. Growing things, c'était l'image de la vie, c'était l'image des choses qui nous dépassent, des choses qui sont là avant nous, qui seront là après nous. Et il était vraiment, il aimait profondément les arbres qui, chez lui, non seulement constituent un décor, sont parfois animés, je pense au vieil homme saule, je pense à Barbe-Bois, Treebeard, mais également sont une image du récit. du récit qui puise ses racines dans un passé et qui peut donner des fleurs inattendues. Et on sait que parmi les illustrations que vous pourrez découvrir à la BNF à partir du mardi 22, il y a ce fameux arbre qu'il appelle l'arbre d'Amalion, qui est un arbre qui porte des fruits de couleur et des fleurs de couleur complètement différentes. Et il dit, ça c'est mon arbre mental, c'est l'arbre du récit. Et l'arbre se retrouve dans une nouvelle que je conseillerais aux auditeurs qui n'ont jamais lu de Tolkien de lire en priorité, c'est Feuilles de Nigel, l'histoire d'un peintre qui n'arrive pas à finir un tableau d'un arbre parce qu'il est interrompu sans cesse par des tâches liées à la société. Et Tolkien a exprimé dans ce récit son angoisse de ne pas réussir à finir Le Seigneur des Anneaux avant de mourir. Donc voyez un petit peu toutes les dimensions que peuvent représenter, que peut représenter l'arbre dans l'imaginaire d'un écrivain comme lui.
Anne Besson.
Ce qu'en retient le plus souvent le grand public, c'est le peuple d'arbres vivants, les Ents, qui se rebellent contre le sort qui est fait à la forêt, puisque le magicien voisin qui est passé dans le camp du mal détruit les arbres pour créer une armée, si je vais un peu vite. Et donc les arbres qui se rebellent contre le sort qui leur est fait et qui marchent contre l'industrie, c'est une image très forte. Alors une image que Shakespeare, que Tolkien reprenait chez Shakespeare, mais voilà, auquel il avait décidé de donner une forme matérielle concrète. C'est-à-dire, chez lui, les arbres se réveillent vraiment et marchent vraiment sur les représentants du mal.
Et on pourra voir dans l'exposition à la BNF des dessins et des aquarelles de Tolkien avec de très beaux arbres. J'ajoute, parce que voilà, c'est le même sujet, dans notre émission de la semaine prochaine, nous parlerons du rapport des enfants à la nature, à un espace éducatif privilégié. Je vous remercie infiniment tous les deux, Anne Besson et Vincent Ferré, de nous avoir tant appris sur Tolkien. Il y a encore tant à découvrir, à la fois dans le catalogue de l'exposition que vous co-signez, Vincent Ferré, dans les nombreux ouvrages que nous citerons dans la bibliographie sur le site de France Culture, à la page d'Être et Savoir. Il faut déplier cette bibliographie, je l'indique, pour voir tous les ouvrages comme ce dictionnaire Tolkien. Vincent Ferré, on passe à la dernière rubrique de l'émission. C'est la leçon de choses de Sophie Bobert. Alors d'où viennent les chefs-d'œuvre de la littérature jeunesse? Ils viennent peut-être, oui, de la nature, de la montagne parfois, des heures passées à bouder dans les arbres, au désir de dessiner comme un demi-dieu, souvenir timide et heureux avec Benjamin Chaud, auteur et illustrateur.
Alors moi je viens des Hautes-Alpes. Et c'est des paysages de neige et de très hautes montagnes. Et ma maison était la plus haute du village et il n'y avait pas de barrière. Et moi je sortais et j'étais dans la forêt, dans la montagne. Et, j'étais très solitaire. Moi j'ai quand même passé beaucoup de temps petit à bouder dans un arbre. Je crois quand même que c'était ma préoccupation, ouais, ma principale occupation.
Mais alors vous dites que vous aimiez bouder en haut des arbres tout seul, mais pourquoi étiez-vous un enfant si boudeur, Benjamin Chaud? Vos dessins sont particulièrement souriants, tendres, délurés même.
Hein. Alors j'aimais pas bouder, hein, je me rendais triste tout seul, mais j'étais toujours déçu par la réalité, je pense que j'avais une trop grosse attente de ce qu'allait être ma journée, et dès que quelque chose n'allait pas, ça ratait. Et du coup, moi, c'est pour ça, je pense que je dessine, c'est parce que je me crée ma propre réalité, je fais mon univers qui sera comme je l'ai décidé et pas comme ça va se passer vraiment. Et moi, je pense que j'ai un problème avec la réalité, et c'est dessiner, c'est fuir cette réalité-là et pouvoir m'inventer ma propre réalité, mon monde où je suis le petit dieu tyrannique qui fait, qui décide de tout. Moi, j'ai dessiné tous mes souvenirs sont avec des dessins dedans. Quoi, j'ai toujours dessiné depuis tout petit, et c'est ce que je faisais le mieux. Alors, est-ce que c'est parce que ça me plaisait que je le faisais bien, ou c'est parce que je le faisais bien que ça me plaisait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais être le plus fort en dessin de ma classe depuis la maternelle, et je l'étais. C'était pas difficile. C'était un village de montagne. Il y avait 12 enfants, donc je pensais que j'avais vraiment ma place dans le monde du dessin, parce que j'étais le plus fort de ma classe. Et ensuite, au collège, j'ai continué à dessiner contre l'avis des professeurs. alors que dessiner n'empêche pas d'écouter. Je me souviens que je suis assez fier d'un bulletin de terminale en histoire-géographie où j'ai zéro de moyenne générale et il y a écrit « dessine » point d'exclamation en capitale. Et moi, je l'ai pris un peu comme plutôt un ordre qu'un reproche.
Alors, il y avait les arbres, il y avait le dessin, mais il y avait aussi la lecture, dont un livre, je crois, qui vous a beaucoup marqué, c'est Rose Bonbonne. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce livre, et nous expliquer pourquoi vous a-t-il tant marqué ?
Alors, moi, j'ai grandi dans les années 70, et ma marraine m'offrait beaucoup de livres. Et dans les années 70, il y avait une maison d'édition qui s'appelait les éditions des femmes, qui étaient des livres féministes. Et il y avait cette histoire d'éléphant qui s'appelait Rose Bonbonne et qui est rééditée par Actes Sud, je crois. Et en tout cas, c'est l'histoire d'une éléphante qui est obligée de rester sagement assise dans des vêtements roses, à manger des pétales de rose, parce qu'elle est une fille et qu'elle peut pas aller jouer avec les garçons éléphants dans la boue, se rouler... de par terre et
que ça va la salir hein.
Parce que ça va la salir et que les filles doivent rester roses et propres et sages. Et moi je me souviens que j'étais complètement fasciné par les dessins roses parce que les pages étaient grandes. Là il est réédité en plus petit et c'est dommage parce que moi quand on est petit et qu'on a un grand livre on rentre dans l'image. Et moi je me souviens d'expériences complètement psychédéliques où je rentrais dans le dessin complètement rose. Et sûrement, en tout cas, il a eu l'effet inverse de ce qu'il voulait, c'est-à-dire que ce livre voulait dénoncer le côté rose pour les filles, un peu cuculapraline, et moi, c'est ce que je voulais, c'était ce rose-là, je voulais en manger, je voulais me rouler dedans, je voulais être habillé dans ces grandes robes roses brillantes en taffetas ou en satin, je ne sais pas.
On retrouve cette patte-là dans la série des pomelos, où c'est l'histoire d'un éléphant rose.
Oui, voilà. Et c'était avec donc Ramona Badescu, qui est l'auteur et qui a imaginé cet éléphant. Et j'ai dû batailler pour qu'il soit rose, parce qu'elle l'avait décidé petit avec une grande trompe. Mais c'est moi qui ai défini la couleur. Et elle, en tant que femme, elle voulait pas de rose. Et finalement, elle est d'accord. Elle était d'accord et c'est très bien.
Lorsque vous reprenez vos premiers dessins d'enfance, c'était déjà aussi appliqué. On sent la touche déjà très très attentionnée.
Ben oui, je pense. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça, c'est que j'essaye de perdre le contrôle ou de lâcher un peu le contrôle et d'être plus flou et plus dans la peinture et plus dans quelque chose de gestuel. Mais j'arrive pas. Je sais pas comment faire et je peux pas ne pas tout contrôler. Je sais pas comment ne pas contrôler en fait. Et j'essaye. Désespérément, mais chaque fois ça me ramène là où je suis en fait. Et tant pis, c'est ça, c'est moi et je peux pas non plus.
C'est votre patte, on vous reconnaît complètement comme ça en fait maintenant.
Bah oui, non mais et puis il a fallu que je l'accepte en fait. C'est ça mon style.
Et si vous voulez découvrir le style de Benjamin Chaud, il publie un nouveau livre, un livre musical, le livre de la jungle. Donc ce sera le 31 octobre chez Gallimard Jeunesse avec des musiques de Félix Lebar. On peut podcaster les leçons de choses, mais on peut podcaster également tout être et savoir. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.